Voici un enseignement donné dans le cadre de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez, en principe, la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite prêché avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour toute personne qui l'écoute.
On va lire les textes maintenant en lien avec la prédication. Donc, Clint va continuer cette petite série sur l'Épître aux Hébreux qui a été entamée. Et donc, le texte principal se trouve tout naturellement dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11. On va lire les versets 1 à 3 et le verset 7. Donc, premièrement, Hébreux 11, les versets 1 à 3 et le verset 7. On est dans ce chapitre qui traite de la foi. Hébreux 11, verset 1. Or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elles que les anciens ont reçu un bon témoignage. C'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible. Et puis le verset 7 encore, dans le même chapitre. C'est par la foi que Noé, divinement averti de ce qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une pieuse crainte, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Et puis deux textes complémentaires, le premier dans la Genèse au chapitre 6, versets 9 à 22. Qui nous explique finalement à quoi fait référence, qui nous amène à voir à quoi fait référence le texte qu'on vient de lire. Donc Genèse, chapitre 6, et on va lire les versets 9 à 22. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme intègre parmi ses contemporains. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra trois fils, Sem, Cham et Japhet. La terre était corrompu devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu vit que la terre était corrompue, car toute chair avait une conduite corrompue sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, « J'ai décidé de mettre fin à tous les êtres vivants, car la terre est pleine de violence à cause d'eux. Je vais donc les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu la couvriras d'un enduit en dedans et en dehors. Tu la feras comme suit. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une ouverture d'une coudée disposée tout en haut. Tu placeras la porte de l'arche sur le côté et tu feras un étage inférieur, un second et un troisième. Et quant à moi, je vais faire venir le déluge sur la terre pour détruire toute chair qui, sous le ciel, a souffle de vie. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais avec toi, j'établirai mon alliance. Tu entreras dans l'arche avec tes fils, ta femme et tes belles-filles. Tu feras aussi entrer dans l'arche deux animaux de chaque espèce vivante pour qu'ils survivent avec toi. Tu prendras un mâle et une femelle. Un couple de chaque espèce, oiseau, bétail, reptile du sol, viendra vers toi afin de survivre. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en des provisions auprès de toi pour que cela te serve de nourriture ainsi qu'à eux. C'est ce que fit Noé. Il agit en tout point comme Dieu le lui avait ordonné. Et puis encore une lecture complémentaire dans l'Épître aux Éphésiens. On retourne dans le Nouveau Testament, Éphésiens chapitre 2, et ce sera les versets 1 à 9. Éphésiens chapitre 2, les versets 1 à 9. Éphésiens chapitre 2, verset 1. Pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous nous conduisions autrefois selon les convoitises charnelles, nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu est riche en miséricorde et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. Afin de montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous en Christ Jésus. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie.
Dieu est à la fois juste et compatissant. Il fera respecter la justice. Il veillera à ce qu'aucun mal ne puisse triompher, que seul ce qui est bon et juste perdure. Il veut qu'aucun ne périsse, mais que tous se repentent. Entre le meilleur et la fin du XVIIe siècle, pendant les 2 ans passés en prison, pour avoir prêché l'Évangile sans licence, le pasteur John Bunyan a commencé à écrire son livre « Le voyage du pèlerin ». Bunyan y décrit le voyage d'un personnage appelé Chrétien, de la cité de la destruction à la cité céleste, de ce monde à celui qui est à venir. Le voyage commence par la lecture d'un livre par Chrétien qui est troublé par ce qu'il lit. Sa femme et ses enfants remarquent sa détresse, mais ne le prennent pas au sérieux. Ils ne le croient pas lorsqu'il leur dit qu'il a lu que leur ville sera détruite par le jugement de Dieu. Ils pensent plutôt qu'il est devenu fou. Ils lui disent qu'une bonne nuit de repos calmera ses pensées et ses émotions. Au matin, il constate qu'il est encore plus troublé qu'avant. Ils deviennent durs envers lui, tantôt le ridiculisant, tantôt le corrigeant, tantôt l'ignorant. Sa situation prend un tournant lorsqu'un autre personnage, nommé Évangéliste, entre en scène. Évangéliste prend les inquiétudes des chrétiens au sérieux et lui remet un parchemin sur lequel on peut lire « Fuyez la colère à venir ». Chrétien prend ce message à cœur et entreprend de suivre les indications données par Évangéliste en direction d'une lumière au loin qui le mènera à une porte étroite et à un chemin étroit qui le conduiront à la cité céleste. Au début, la femme et les enfants de Chrétien l'appellent pour qu'il revienne, mais Chrétien se met les doigts dans les oreilles et sort en courant en répétant « la vie éternelle ». Le roman de Bunyan n'est pas seulement un récit fantaisiste ni un drame fictif, il décrit la vie de chaque chrétien. Nous allons nous pencher sur le récit biblique de Noé qui, comme le récit de Bunyan, décrit un homme de foi convaincu de la destruction à venir et du jugement à venir. Même si la plupart des gens ne l'ont pas pris au sérieux. Nous poursuivons notre série sur le livre aux Hébreux avec quelques Préfication sur la foi, basée sur son chapitre 11. J'ai intitulé cette prédication « La centralité de la foi », partie 1. Dans cette série sur les Hébreux, nous avons d'abord examiné cette façon dont le Christ règne en maître, présentée tout au long du livre. Nous nous sommes ensuite concentrés sur le chapitre 8 et avons appris comment le Christ a redéfini le peuple de Dieu, passant des tribus rebelles qui s'opposaient obstinément à lui, à un corps de croyants avec des cœurs régénérés et pacifiés. Nous allons maintenant zoomer encore davantage pour examiner le chapitre 11, les versets 1 à 3 et en particulier le verset 7. Tout le chapitre 11 est comme un contrepoids à ce que nous avons vu au chapitre 8. Le chapitre 8 rend l'alliance mosaïque obsolète et nous montre la redéfinition par le Christ du peuple de Dieu sous l'alliance, sous la nouvelle alliance. Ce démantèlement de l'alliance mosaïque laisse l'auditeur se demander quel est notre lien aujourd'hui avec le peuple de Dieu de l'Ancien Testament. Qu'est-ce qui unit les saints du Nouveau Testament au sein de l'Ancien Testament si le système sacrificiel n'existe plus? Le chapitre 11 rétablit l'équilibre. Il nous aide à comprendre que la foi est un élément qui unit le peuple de Dieu à travers le temps. La foi est un fil conducteur tissé au sein du peuple de Dieu. Un fil qui parcourt son histoire de la Genèse à l'Apocalypse, du Jardin à la Cité Céleste. Nous verrons aujourd'hui comment ce fil est tissé dans la vie de Noé, comment la foi est tissée dans nos vies aujourd'hui et comment la foi nous touche, nous et nos familles. J'ai divisé ce sermon en trois points pour inclure toute la foi. Dans le point 1, nous verrons la foi pour percevoir le jour du jugement. Au point 2, nous verrons la foi pour construire en vue du salut. Au point 3, nous verrons la foi pour hériter d'une bonne relation avec Dieu. Je conclurai en désignant Dieu comme la source de la foi, comme celui qui accorde la foi aux incrédules. J'indiquerai que Dieu est notre plus grand besoin. Dans les versets 1 à 3 du verset 11, du chapitre 11, c'est-à-dire, nous voyons qu'il faut de la foi pour percevoir l'invisible. Or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un bon témoignage. C'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible. Notre société actuelle refuse de croire en ce qu'elle ne peut pas voir. Le scepticisme abonde à l'égard de tout ce qui dépasse le monde naturel, de tout ce que nous ne pouvons pas mettre sous nos microscopes, de tout ce que nous ne pouvons pas compter et observer directement. L'Église primitive a également combattu ce scepticisme, cette incrédulité à son époque. C'est pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit ici, au verset 2, que c'est à cause d'elle, c'est-à-dire la foi, que les anciens ont reçu un bon témoignage. La foi était aussi rare dans l'Empire romain du 1er siècle qu'elle est aujourd'hui en Suisse. Ce n'est que par la foi que l'on peut regarder au-delà du physique pour voir la vérité spirituelle. C'est seulement par la foi que nous pouvons regarder au-delà de la création pour voir le Créateur. Au verset 7, nous voyons qu'il a fallu de la foi à Noé pour percevoir la venue du jour du jugement. C'est par la foi que Noé, divinement averti de ce qu'on ne voyait pas encore. Alors, pour que Noé prenne Dieu au mot, pour que Noé croie à l'avertissement de Dieu concernant le déluge à venir, Noé doit l'accepter par la foi. Il ne pouvait pas encore voir le jugement à venir, le déluge à venir. Les nuages de pluie ne s'étaient pas encore rassemblés. Les fontaines de l'abîme n'avaient pas encore jailli. Tout le monde autour de Noé et de sa famille poursuivait sa vie sans aucun signe ou reconnaissance du jugement à venir. De même, nous ne pouvons pas encore voir venir le jugement. De même, nous ne pouvons pas encore voir venir le jour du jugement, lorsque Dieu demandera des comptes à chacun, lorsqu'il jugera les vivants et les morts. Je pense que nous hésitons dans l'évangélisation personnelle à parler du jugement et de l'enfer. Mes frères et sœurs, je pense que nous devrions reconsidérer la question. Il est bon et juste d'avertir les gens de la colère à venir, de les aider à considérer les conséquences éternelles de la poursuite de leurs péchés, de la persistance de l'incrédulité et de la résistance à l'appel de Dieu à la repentance. Il se peut qu'on se moque de nous et qu'on nous méprise pour notre foi, mais cela ne devrait pas nous surprendre. Jésus nous a avertis du coup de la vie des disciples, que la moquerie et la méprise ne nous empêchent pas de parler à part égale de la justice et de la grâce de notre Dieu. Qu'elle ne nous empêche pas de parler également de l'enfer et du paradis. Parlons donc de la colère à venir, mais n'arrêtons pas la conversation là. Terminons là en soulignant le refuge que l'on trouve en Christ seul. Terminons la conversation en soulignant le refuge que l'arche offre contre les eaux des déluges, le refuge que Jésus offre contre le péché, la condamnation et l'éternité en enfer. Au verset 7, nous voyons qu'il a fallu de la foi à Noé pour continuer à construire jusqu'au salut. Alors, c'est par la foi que Noé, saisi d'une pieuse crainte, construisit une arche pour sauver sa famille. Il semble, d'après le récit de Noé dans Genèse 6 et 7, que Noé ait passé 120 ans à construire l'arche. Quelle persévérance pour construire à un tel projet pendant plus de 100 ans. Quelle persévérance il nous faudrait avoir, quelle conviction et quelle certitude pour qu'on puisse agir face à la calamité dont Dieu nous a prévenus. On nous dit que Noé pardon. On nous dit que Noé a persisté, qu'il a continué à construire par crainte respectueuse. Il a dû craindre Dieu plutôt que l'homme afin d'obéir à Dieu et de mener ce projet à son terme. Trop souvent, notre crainte de l'homme nous réduit au silence. Elle nous bâillonne alors que nous devrions parler hardiment à nos amis et à notre famille du salut que nous trouvons en Jésus-Christ seul. J'aimerais vous recommander un livre sur ce sujet, un livre que Dieu a utilisé pour me réorienter dans la vie. Il s'intitule « Quand les hommes ont plus d'importance que Dieu ». Il a été écrit par un pasteur et conseiller biblique, Ed Welch. Il nous aide à comprendre notre tendance à craindre les hommes plutôt que Dieu. Nous avons tendance à passer notre temps à nous demander ce que les autres pensent de nous, à rechercher leur acceptation et à craindre leur rejet. Mais ce faisant, cette crainte de l'homme risque de nous maîtriser. Elle contrôle nos pensées, nos émotions et nos actions. Elle fait de nous des esclaves des hommes plutôt que des serviteurs de Dieu. Prions donc pour avoir la grâce de craindre Dieu plutôt que les hommes. Prions pour que le Christ domine nos pensées, nos émotions et nos actions. Que lui seul apaise notre cœur et que nous ne cessions de lutter contre le raviseur et trouvions la paix dans la présence du Christ qui libère du péché. Il nous est également dit que Noé a construit l'arche pour sauver sa famille. De la même manière, dans l'Église, nous bâtissons dans la foi en vue du salut. Nous restons dans l'Église, travaillons les uns avec les autres dans le but de sauver une famille. Cette famille comprend tous ceux qui persistent dans la foi. C'est pourquoi l'auteur des Hébreux l'appelle le foyer de la foi. Il peut être douloureux que des membres de notre famille naturelle ne fassent pas partie de la maison de la foi avec nous. Et il peut être difficile d'aborder le sujet de la foi avec notre famille, en particulier si elle s'est endurcie contre elle. Prions donc pour que le Seigneur laboure le sol de leur cœur par son Saint-Esprit. Prions pour que le sol pierreux soit brisé et qu'un sol doux et fertile prenne sa place, dans lequel l'Évangile pourra s'enraciner et devenir un arbre saint, un arbre qui, avec le temps, portera ses propres fruits. Au verset 7, nous voyons qu'il a fallu de la foi à Noé pour hériter d'une bonne relation avec Dieu. C'est par elle, c'est-à-dire la foi, qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Noé a renoncé au monde en écoutant la parole de Dieu, en obéissant à l'ordre de Dieu de construire une arche pour sauver sa famille. Il est bon et juste qu'il ait cherché à sauver sa famille et à renoncer au monde, mourant qui allait bientôt disparaître. Qu'il ait cherché à assurer un avenir durable à sa femme et à ses enfants. Parents, que vous choisissez de faire l'école à la maison ou d'envoyer vos enfants à l'école publique, je veux vous encourager à éduquer vos enfants sur le fondement de l'Évangile. Père, lisez les Écritures avec eux à table. J'ai commencé à laisser une de nos Bibles ouverte sur la table du dîner pour ne pas l'oublier. Mère, endormez vos enfants en leur chantant des hymnes qui communiquent de profondes vérités spirituelles. Amenez-les à l'Église, à l'Évangile également, et discutez avec eux de ce que vous avez entendu à l'Église. Parlez du sermon ou de la leçon de l'école du dimanche pour les engager dans la vérité. Guidez-les vers Jésus, comme c'est votre devoir en tant que parents chrétiens. Renoncez au monde et guidez votre famille vers l'arche, qui est Jésus. Il nous est également dit que Noé est devenu héritier de la justice qui vient par la foi. Notez ici que sa justice a été héritée. Elle n'a pas été créée par lui. D'où vient donc cette justice? Comment Noé a-t-il pu être justifié devant Dieu, si ce n'est pas par sa propre justice? Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, pour sauver ceux qui ne pouvaient pas se conformer à la loi parfaite de Dieu. C'est par son obéissance parfaite et par sa mort expiatoire à notre place qu'il a payé la dette de son peuple. Noé se trouvait à un stade intérieur de l'histoire de la rédemption par rapport à nous. Il n'a pas bénéficié du plein conseil de Dieu, comme c'est le cas aujourd'hui. Malgré cela, sa justice, sa justification devant Dieu a été achetée par le paiement futur de Jésus sur la croix du calvaire. D'où vient la foi? L'apôtre Paul nous humilie dans Éphésiens 2 en révélant que la foi ne vient pas de nous, mais de Dieu. Pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Cet esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous conduisions autrefois selon nos convoitises charnelles. Nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu est riche en miséricorde, et à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés, qu'il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. En Christ Jésus, c'est-à-dire. Afin de montrer dans les siècles à venir la richesse subordante de sa grâce par sa bonté envers nous en Christ Jésus. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. car nous sommes...
C'est tout, voilà.
Si Dieu est la source de la foi, s'il est celui qui donne la foi à ceux qui ne croient pas, alors c'est que nous avons vraiment besoin de lui. La foi en Dieu n'est pas quelque chose que l'on peut avoir en dehors de Dieu. Approchons-nous de la source de toute grâce, de Dieu, de Dieu, de qui la foi, la vérité, la vie, l'amour et tous les excellents dons affluent sans cesse vers son peuple. Mais qu'en est-il des membres de la famille qui ne nous ont pas encore rejoints dans la maison de la foi? Qu'est-il arrivé à la femme et aux enfants des chrétiens dans le livre de Bunyan? Il semble que Bunyan se soit posé cette question ou que les lecteurs de Bunyan se la soient posé à son époque. Bunyan a ensuite écrit une deuxième partie du Voyage du pèlerin, une suite de l'histoire dans laquelle la femme des chrétiens, ses enfants et leurs conjoints accomplissent le même voyage, le même cheminement des disciples que chrétiens. Elles le rejoignent dans la cité céleste. Mes amis, ne nous pouvons pas savoir si les membres de notre famille qui ne croient pas embrasseront un jour la foi, mais ne vous découragez pas. Dieu peut encore les sauver. Il peut encore leur accorder la foi pour qu'ils se détournent de leur incrédulité et se joignent à nous. Il y a de l'espoir en Christ, notre roi. Ce ne sont donc pas des prières pour leur salut. Laissons de côté toute peur de l'homme, toute crainte de l'homme ou toute apathie qui pourrait nous empêcher de partager le Christ avec eux avec amour. Si vous êtes ici aujourd'hui et que vous n'êtes pas chrétien, je vous encourage à vous tourner vers Jésus-Christ. En lui seul se trouve un refuge sûr contre l'esclavage du péché, la condamnation et les tourments éternels. En lui seul se trouve le salut. Amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez entendre d'autres prédications ou profiter de ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.